Le monde féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
L'avocate libyenne Anan al-Barassi, militante féministe qui luttait aussi contre la corruption, a été abattue dans sa voiture le 10 novembre 2020 à Benghazi. Madame Barassi, 46 ans, défendait des femmes victimes de violences et luttait contre la corruption. Elle a été tuée par balle quelques minutes après avoir diffusé une vidéo en direct sur Facebook. Dans cette séquence, l'avocate critiquait des groupes armés se disant menacés. L'assassinat de Anan al-Barassi est un rappel douloureux de la réalité, en particulier pour les femmes, a dénoncé une autre avocate libyenne, Enam Saoudi. Le maréchal Haftar a condamné cette attaque et a promis une enquête. Comment faciliter l'accès des femmes au foncier en Afrique, où la tradition de nombreuses communautés privilégie encore les hommes et les garçons en la matière? Cette question préoccupe la Fondation Konrad Adenauer et le réseau Wildaf au Bénin, qui, depuis des années, à travers des actions sur le terrain, sensibilise les acteurs politiques et la population. L'objectif est de réparer les injustices faites aux femmes et aux filles en matière de droits fonciers depuis des centenaires. Un reportage de Ginette Fleur-Adandé à Cotonou.
Depuis plus de 5 ans, la Fondation Konrad Adenauer et Wildaf Bénin se battent pour que le droit à la terre soit une réalité chez toutes les femmes béninoises à l'heure de la capitalisation des acquis du projet. Un seul monde sans fin pour le droit des femmes à la terre. Le bilan n'est pas autant glorieux, mais un grand pas a été franchi selon Habib Bouraïman, acteur de la société civile.
De 15,2% en 2009 avec l'étude de Wildaf, nous sommes arrivés à 27,72% de femmes qui ont accès à la terre par héritage. 72,8% au niveau des hommes. On a également constaté que les femmes achètent 3 fois moins de terres que les hommes. Et il n'y a que 25,5% qui arrivent à acheter la terre. Il y a cette dichotomie des chiffres qui fait que la femme est en marge.
La loi sur le foncier existe et a besoin d'être renforcée, vulgarisée, pense Elke de la Fondation Konrad Adenauer.
Nous pensons toujours qu'il faut activer, il faut réveiller un peu les parlementaires. Comme eux, ils sont là pour le salut du peuple. Comme à la fin de tout, c'est toujours les lois sur lesquelles il faut adapter et lesquelles il faut aussi consulter. Créer un dialogue qui n'existait pas avant.
Aujourd'hui, même avec la loi, la famille arrive à s'imposer et peut soustraire une femme du droit à l'héritage, surtout lorsque celle-ci devient une veuve. Blandine Sitondi de l'Association des femmes juristes du Bénin sans désolé.
Vous savez, la famille n'a pas plus de force que la loi. C'est vrai que les familles s'interposent des fois et les femmes aussi se laissent faire. Et je crois que c'est surtout des femmes qui ne sont pas informées du contenu de cette loi, surtout par rapport à la succession. Sinon, nous recevons beaucoup de femmes au centre qui viennent dire que le mari est décédé, la famille est venue tout ramasser. On ramasse même jusqu'au jouet des enfants.
Dans les tribunaux, il n'y a pas ce jour où les juges ne sont pas appelés à se pencher sur des cas de litige successoraux. Les cas qui font légion sont liés à des parcelles arrachées aux femmes, même si elles les ont achetées à la sueur de leur front. Maître Antoine Kofi est magistrat.
On a vu dans certains dossiers où la femme, avant d'acquérir un bien immeuble, en informe son époux et c'est l'époux qui l'accompagne le jour de la conclusion de la convention de vente, qui soit témoin, ou bien carrément c'est l'époux qui signe comme acquéreur, hein, et la femme comme témoin, et c'est lorsque il y a contestation, cela se révèle que, au fait, c'est la femme qui a réuni les moyens pour acheter le domaine.
Malgré les obstacles, la Fondation Konrad Adenauer, soutenue par de nombreuses associations de défense des droits de la femme, ne compte pas baisser les bras. Elle se donne comme mission de travailler à faire accepter à tous, même aux gardiens de la tradition, la nécessité de respecter le droit des femmes béninoises au foncier. De Cotonou, Jeanette Loadandé pour VOA Afrique.
Au Gabon, plusieurs secteurs de l'économie se réorganisent pour faire face à l'impact de la crise du coronavirus. Le processus de transformation de la pêche artisanale, généralement opéré par des femmes le long des côtes du pays, renoue avec le marché de la sardine. Ismaël Obiangze est allé à la découverte d'un débarcadère de Libreville où ces femmes exercent leur activité génératrice de revenus en lien avec les produits de la mer.
Sur cette lagune de Libreville, l'excitation des pêcheurs est à son comble. Après plusieurs heures de traque, ils viennent de remonter quelques poissons en un coup de filet. Depuis le mois de mai dernier, les pêcheurs ont amorcé la phase de production de la sardine, l'un des poissons phares des eaux gabonaises. Une période de production qui devrait s'étaler jusqu'à la fin de l'année. Les pêcheurs mettent en vente leur prise matinale auprès des marégueuses. Céline Ningonondo est présidente de l'association des transformatrices de poissons.
Et là, ils sont en train de débarquer la sardine sur des pagayés, dont les transformatrices, qui vont aller à leur fumoir pour aller transformer la sardine.
Selon la Direction nationale des pêches, la pêche artisanale débarque près de 10 000 tonnes de sardines par an sur les différents sites, dont près de la moitié est vendue frais. Ce matin, il n'y en aura pas assez pour tout le monde à cause d'une offre encore faible par rapport à la demande du moment. Alda Ibiga est marieuse.
Je suis venue pour me ravitailler en sardines fraîches. Malheureusement, il n'y a pas eu. Donc, j'ai dû prendre le bossu, 5 kilos de bossu, pour aller glacer et puis le revendre demain matin.
Le reste de la sardine doit passer par le salage et le fumage. Cette activité de transformation se fait près des lieux de débarquement. Jessica Chineke est une fumeuse de poisson.
Je suis en train de classer la sardine. Lorsqu'on finit de classer, on met le feu, par exemple, comme ici, là.
Juste à côté de Jessica, Alice Obasanjo, 35 ans, vendeuse de poissons fumés depuis son jeune âge, évoque le calvaire de son activité en pleine Covid-19.
C'est l'agent des carburants qui prend tout. Avant, on vend 1 litre de pétrole à 350. Maintenant, 1 litre de pétrole est devenu 800, 700. Donc, pour aller jusqu'à la pêche, notre mari peut prendre au moins 30 000, 40 000. Pour aller. Et les policiers qui vont rester à la route vont prendre aussi pour eux. Donc, on ne gagne pas grand-chose dedans.
À Libreville, très peu d'acteurs de ce secteur de la pêche artisanale accèdent à la propriété au motif des procédures administratives qui sont longues. Alors d'expulsion en expulsion, ils ont à chaque fois reconstruit leur village sur pilotis, de façon provisoire sur les rives du fleuve Laloé, toujours plus loin de l'embouchure. Libreville, Ismaël Obiangze pour VO Afrique.
Des jeunes pouvaient. Le taux de scolarisation des filles est encore bas au Cameroun par rapport à celui des garçons. En outre, 68% des filles parviennent à achever les études du cycle primaire contre 76% chez les garçons. L'on retrouve également moins de filles dans le cycle secondaire. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap, s'est penché sur cette question.
Les entraves culturelles sont citées parmi les facteurs défavorables à l'éducation de la fille au Cameroun. Depuis 2006, des initiatives ont été prises par le gouvernement à différents départements ministériels pour tenter de les endiguer et accroître ainsi le taux de scolarisation de cette couche sociale.
Les filles font face à plusieurs violences.
Philomène Biyina, inspectrice nationale de la pédagogie au ministère de l'Éducation de base.
Les harcèlements sexuels, l'exploitation même des filles pour subvenir aux besoins domestiques, les mariages précoces qui continuent dans certaines zones.
Les entraves liées au cas de mariage et grossesse précoce sont cependant les plus récurrents. D'après une étude de 2016 menée par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, 13% des filles camerounaises sont mariées avant 15 ans et 38% avant 18 ans. Un plan d'action financé à près de 14 milliards de francs CFA sur 5 ans a été élaboré pour éradiquer ces fléaux. Jean-Baptiste Yebel est sous-directeur de la Promotion et de la Protection des droits des enfants.
Il faut bien dire aux leaders qu'au-delà de la sensibilisation qu'on vous fait pour un meilleur encadrement, sachez aussi qu'il y a une loi qui punit désormais ce genre de pratique.
Dans l'enseignement secondaire, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où prévaut un conflit armé depuis 4 ans, connaissent une baisse considérable du taux de scolarisation des filles. Mais ailleurs, l'on observe quelques améliorations. Bernadette Mbia, directeur de l'orientation de la vie et de l'assistance scolaire au ministère des enseignements secondaires.
La scolarisation de la jeune fille, tout au moins parlant du taux de scolarisation, se rapproche de celui du jeune garçon. Aujourd'hui, une fille ne parcourt plus 7 km pour se rendre à l'école. Aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine, les établissements scolaires ont été multipliés.
Malgré cela, plusieurs filles sont sorties précocement du système scolaire normal. Elles peuvent néanmoins suivre des formations pratiques dans des centres dédiés, comme dans le centre du 4e arrondissement à Yaoundé.
Nous donnons des formations pour faciliter l'autonomisation de la femme et de la fille.
À Djebou à Sembe Ngono, directrice du centre.
Nous avons ici, entre autres, des formations en hôtellerie-restauration, en industrie habillement, en soins esthétiques, en coiffure, en TIC, en décoration. Et il y a des formations d'avenir, la maroquinerie.
Pour élever le taux de scolarisation de la fille, le gouvernement distribue désormais dans les établissements publics du matériel d'inclusion à celles qui sont frappées d'un handicap et des rations alimentaires sèches aux filles vulnérables dans les 4 zones d'éducation prioritaire, la Damawa, l'Est, l'Extrême Nord et le Nord. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
En République démocratique du Congo, comme un peu partout ailleurs, certaines catégories de personnes sont toujours sceptiques face à la pandémie de Covid-19. Pour battre en brèche cette conception erronée de la réalité, des groupes de jeunes ont pris des initiatives visant à sensibiliser et attirer l'attention des gens qui pensent à tort que cette maladie n'existe pas dans leur milieu. Un reportage d'Arsène Séverin qui a rencontré ces jeunes acteurs sociaux à Brazzaville.
Nous sommes au marché Total, l'un des plus grands de Brazzaville. Le photographe le bon Chansar Ziavoula se sert de son appareil pour attirer l'attention de jeunes qui ne croient toujours pas à l'existence du coronavirus.
La personne est là, marque sa présence dans un milieu public, habillée en blanc, avec son masque et tout, et les gens viennent finalement autour. Et là, vous avez des gens qui te posent des questions. Il y a le coronavirus, et c'est une façon pour moi aussi, en tant qu'artiste, de porter un regard dans ma société. Donc les gens me posent des questions, et tout de suite, je réponds. Je dis oui, la maladie existe.
Beaucoup de Congolais, en effet, développent un scepticisme face à la Covid-19. Les jeunes sont en première ligne.
Ici, chez nous, on n'a jamais vu. On croit quand même. Comme à l'église, on nous dit que Dieu existe, on croit, mais on ne l'a jamais vu.
Regardez seulement la condition de laquelle les gens se tuent dans les marchés, dans les bus. On nous dit, dans les bus, il faut garder les distances. Mais quand nous nous battons pour entrer dans un bus, on s'en fout. Ah donc, pour d'autres, c'est un mythe. Même les chiffres que nous voyons à la télé, on se dit que c'est juste pour amuser le peuple.
À l'instar du photographe Ziavoula, des jeunes sensibilisent d'autres jeunes à la présence effective de la Covid-19 au Congo. Yohann Ibiliki, président de l'Association congolaise pour l'assistance sociale.
Nous avons organisé
certaines activités afin de sensibiliser la population en général et les jeunes en particulier sur l'existence de cette maladie au Congo et comment il fallait faire pour se protéger. Ce que je peux dire à la jeunesse congolaise qui représente plus de la moitié de la population, c'est de faire preuve de civisme et de responsabilité face à cet ennemi invisible.
Thalès Zokele est artiste.
Il y a plusieurs interrogations, mais après nous, on ne peut pas toujours tomber dans cette naïveté. Il est temps de prendre ce problème à bras-le-corps.
Selon plusieurs témoignages recueillis dans la ville, le scepticisme se développe dans la société parce que les médias locaux ne montrent pas les malades de Covid-19 et que la prise en charge des cas déclarés n'est pas rassurante. Des propos que rejette la ministre de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo.
On a toujours tendance à être dans la rumeur, dans le trafic d'informations, contrairement à des personnes mal intentionnées qui font du trafic d'informations sur les réseaux sociaux. Nous avons bien des respirateurs, ils sont là, il y en a qui sont installés, il y en a qui ne le sont pas, tout simplement parce qu'il y a encore des travaux.
Arsène Séverin, Brazzaville, VO Afrique.
Les jeunes ou les femmes, croyez en vos rêves, rien n'est impossible, ça va se réaliser. Et inspirons-nous, créons notre histoire, l'Afrique que nous voulons voir demain.
Entre parenthèses.
Au Kenya, le couvre-feu et les restrictions de circulation dues au coronavirus ont entraîné une augmentation de la violence contre les femmes, selon les agents de santé. Une association qui travaille sur la prévention du VIH et la santé reproductive affirme que l'insécurité économique met à rude épreuve les familles et expose certaines femmes aux abus de leur mari. Sur cette question, je relate ici un reportage de Mohamed Youssouf à Nairobi. Lucy Awor, 32 ans, est venue chercher de l'aide dans un centre public qui soutient les femmes fuyant un conjoint violent au Kenya.
La vie a été difficile pour moi. Je n'ai pas la paix dans ma maison. Parfois, je n'ai pas de nourriture pour mes enfants. Et surtout, mon mari me bat au milieu de la nuit. Je ne dors pas en paix.
Pour échapper à cette violence, Lucy Awour dit espérer la reprise des transports intérieurs afin qu'elle puisse se réfugier avec ses enfants dans sa famille. Charles Wino, porte-parole de la police, a déclaré qu'il voyait de plus en plus de rapports de violences sexistes depuis le début de la pandémie de Covid-19.
Souvent, la femme est en situation de faiblesse, elle devient victime. Et par conséquent, nous constatons un certain nombre de cas, une augmentation du nombre de cas où des femmes ont été probablement agressées, maltraitées.
Il n'y a pas encore de chiffres officiels, mais les agents de santé kényans disent avoir constaté une augmentation des cas d'abus depuis la mise en place du couvre-feu en mars pour limiter la propagation du coronavirus. Jeanne Thiomi de Elvi City Health, une organisation qui soutient les femmes et les filles victimes d'abus, a déclaré que son ONG avait reçu 123 cas de maltraitance et violences basées sur le genre en février, tandis qu'ils en ont enregistré près de 800 au cours des 6 premières semaines de couvre-feu.
Avec l'aide d'agents de l'État, de nombreuses personnes dénoncent quotidiennement des violences. Et ce que nous faisons, c'est simplement nous asseoir avec les deux parties, s'ils sont prêts à le faire, et avoir une conversation, une sorte de processus de négociation. Parce que la personne victime d'abus de nos jours n'a nulle part où aller.
Pour les autorités kényanes et les associations caritatives, l'aggravation de la violence à la maison vient principalement du stress causé par la perte de revenus due à l'arrêt des activités économiques en période de pandémie. Comme nous venons de le voir au Kenya, les violences sexuelles contre les filles et les femmes ont également augmenté au Nigeria lors des périodes de confinement imposées par les autorités pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Un reportage de Timothy Obiezu à Abuja, relaté par Arzuma Compaoré.
En janvier 2015, Ifunanya Glory revenait du travail lorsque, dit-elle, son voisin l'a rejointe et forcée dans sa maison. Elle a lutté en vain pour se libérer alors qu'il l'a traînée et battue avant de la violer. Je me souviens qu'il m'a dit, Ifunanya, même Dieu ne peut pas te sauver d'entre mes mains. Les efforts d'Ifunanya pour obtenir justice ont été vains. Elle s'est résolue à venir dans cette église chaque semaine pour trouver du réconfort, mais dit qu'elle vit toujours avec le traumatisme. Les Nations Unies estiment qu'une fille sur quatre au Nigeria subit des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Mais le pays connaît une nouvelle vague d'infractions, de viols et autres violences sexuelles contre les femmes, jusqu'à 3 fois plus depuis le début de la pandémie de coronavirus, selon un groupe d'aide bénévole appelé Domestic and Sexual Violence Team. Le problème a attiré l'attention après que 3 femmes ont été violées et tuées dans différentes parties du pays à quelques jours d'intervalle. Des centaines de manifestants et de militants des droits de l'homme qui ont marché autour du siège de la police à Abuja ont demandé justice pour les victimes. Sur les réseaux sociaux, les hashtags comme End Rape, No Means No et Justice pour les victimes de viol continuent de se répandre.
One of those conclusions that we are making now is the fact that
l'une des conclusions que nous tirons maintenant est le fait que le verrouillage a bien sûr obligé les auteurs de viol à se retrouver dans les mêmes limites, dans les mêmes espaces que les survivantes, les personnes violées, femmes comme filles. Celles-ci restent impuissantes et les auteurs le savent aussi.
Who have been raped with the women and the girls. So the women and the girls are helpless. The perpetrator also knows that the women and girls are helpless at this time.
Les critiques disent que le Nigeria a été lent à répondre aux problèmes dans le passé. Mais maintenant, les autorités déploient des équipes spéciales d'enquête sur les violences de genre dans chaque état du pays.
Every one of us have got a sister. We've got a woman in
Chacun de nous a une sœur, une femme, une fille ou nous avons une mère. Et nous ne voulons pas qu'elles soient victimes d'agressions sexuelles ou de viols.
Any of them to be sexually abused, to be sexually molested.
À part conséquent, nous sommes ensemble avec vous dans la quête de Nigeria libérée de tout viol.
In the quest for a rape-free Nigeria.
L'année dernière, les autorités nigérianes ont lancé le premier registre de délinquants sexuels du pays pour punir les coupables. Plus récemment, le Forum de gouverneurs du Nigeria a déclaré l'état d'urgence sur le viol et les autres formes de violences sexuelles à l'égard des femmes et des enfants dans les 36 états du pays.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.